Chapitre 4. Mohammed et le rejet. L'existence de Mohammed constitue le fondement de l'islam. Ce chapitre donne un aperçu de certains faits de la vie de Mohammed sur lesquels s'appuient les principes de l'islam et le pacte de la Dima. Un début de vie pénible. Mohammed est né en 570 après Jésus-Christ, dans une tribu arabe de la Mecque. Son père, Abdullah ben Abdel Muttalib, est décédé avant sa naissance. Mohammed a grandi dans une autre famille qui en a pris soin pendant sa tendre enfance. Sa mère est ensuite décédée alors qu'il n'avait que 6 ans, et son grand-père, un homme puissant, s'en est occupé pendant un certain temps avant qu'il ne décède lui-même. Mohammed avait alors 8 ans. Il vécut alors chez le frère de son père, Abu Talib, où on lui confia la garde des moutons et les dromadaires de son oncle. Il écrira plus tard qu'aucun ne peut devenir prophète s'il n'a fait paître des troupeaux, transformant ainsi son humble rôle en marque de distinction. Même si d'autres oncles de Mohammed étaient riches, il semble qu'aucun ne s'est manifesté pour le supporter. Le Coran exprime même du mépris pour l'un des oncles, surnommé Abu Lahab, le père de la flamme. Il brûlera en enfer à cause de son mépris pour Mohammed. Périssent les mains d'Abu Lahab, et qu'il périsse lui-même. Toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien. Quand il sera dans un feu aux flammes ardentes précipitées, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, qui sera traînée une corde rugueuse au cou. Un mariage inégal. À 25 ans, Mohammed se retrouve à l'emploi d'une femme du nom de Khadija, qui lui proposa de le marier. Elle était plus âgée que lui. Puisque Khadija craignait que son père refuse le mariage, elle s'organisa pour qu'il les marie alors qu'il était ivre. Lorsque le père revint à ses sens, il fut furieux de découvrir ce qui s'était passé. Dans la culture arabe, un homme doit payer une dot pour son épouse, après quoi elle sera considérée étant son bien, allant même jusqu'à l'inclure dans son testament au même titre qu'un bien immobilier, ce qui permet à ses héritiers mâles de la marier s'ils le désirent. En contraste avec la coutume, Khadija était puissante et riche. Le biographe de Mohammed, Ibn Ishaq, la décrit comme une femme dignitaire et riche. Et Mohammed était pauvre, ce qui n'attirait que très peu de candidates au mariage. Khadija s'était déjà mariée 2 fois auparavant. Ce mariage demeure exceptionnel au regard de la tradition culturelle du mariage dans la culture arabe. Privation parentale. Khadija et Mohammed eurent 6 enfants, 7 selon certains. En tout et pour tout, Mohammed engendra 3 ou 4 fils, mais ils moururent jeunes, le laissant sans héritier mâle. Ce fut sans doute une grande source de déception pour Mohammed concernant son expérience de la vie familiale. Pénible expérience de vie familiale. Somme toute, la vie familiale de Mohammed comporta plusieurs événements traumatiques et pénibles. Il devint vite orphelin, puis, suite à la perte de son grand-père, il fut marié par un beau-père plus ou moins consentant à ce mariage, puisqu'il était ivre au moment des fêtes. Mohammed demeura dépendant de son épouse et vulnérable aux railleries et à l'hostilité des membres de sa puissante famille par alliance. Les soins que lui prodigua son oncle Abu Talib, ainsi que le choix de Khadija de le prendre comme époux, ce qui lui évita la pauvreté, constituent les rares épisodes positifs de sa vie. Une nouvelle religion est fondée. Vers l'âge de 40 ans, Mohammed commença à recevoir les visites d'un esprit qu'il identifia comme étant l'ange Jibril, l'ange Gabriel dans la Bible. L'autorejet. Ces visites de l'ange Jibril rendirent Mohammed extrêmement anxieux et en détresse. Il se demanda s'il n'était pas possédé. Il envisagea même le suicide en écrivant « Je vais me rendre au sommet d'une montagne et me jeter en bas afin que je puisse mourir et trouver du repos. » Sa femme Khadija le consola et le réconforta au cours de ses crises d'anxiété. Elle l'amena chez leur cousin Waraka, un chrétien qui le qualifia de prophète et non d'insensé. Plus tard, lorsque les révélations cessaient pour un temps, Mohammed demeurait tourmenté par des idées suicidaires, mais chaque fois qu'il était sur le point de se jeter du haut d'une falaise, l'ange Jibril lui apparaissait pour le rassurer, lui disant « Ô Mohammed, tu es en vérité et sans conteste le messager d'Allah ». Il semble que Mohammed était effrayé d'être rejeté comme un éventuel fraudeur puisque dans l'un des plus anciens sourates, Allah rassure Mohammed qu'il ne l'a point abandonné ni haï. La communauté musulmane se développa lentement. Khadija devint la première convertie. Elle fut suivie par le cousin de Mohammed, Ali, qui avait grandi dans la maison de Mohammed. D'autres suivirent essentiellement des pauvres, des esclaves ou des esclaves récemment libérés. Mohammed et sa propre tribu. Au début, les disciples gardèrent secrète la nouvelle religion, mais après 3 ans, Mohammed reçut un message d'Allah de la rendre publique. Il le fit en organisant une réunion de famille à laquelle il invita ses proches à joindre l'islam. À cette étape, les membres de la tribu Quraysh de la Mecque, à laquelle Mohammed appartenait, étaient disposés à l'écouter jusqu'à ce qu'ils se mettent à dénigrer leur dieu. Par la suite, les musulmans devinrent, selon Ibn Ishaq, une minorité méprisée. Les tensions s'accentuèrent et la situation jusqu'à l'éclatement entre les deux positions. Alors que l'opposition montait, Abu Talib, l'oncle de Mohammed, le protégea. Lorsque des gens de la Mecque l'approchaient en lui disant « Tu sais, Abu Talib, ton neveu maudit nos dieux, insulte notre religion, se moque de notre style de vie. Ou tu l'arrêtes, ou tu nous laisses mettre le grappin dessus. » Abu Talib les mettait à la porte. Les Arabes qui refusaient de croire instituèrent un boycott économique et social contre le clan de Mohammed en interdisant de faire commerce et en refusant tout mariage entre clans. À cause de leur pauvreté, les musulmans étaient très vulnérables. Ibn Ishaq donne un sommaire de leur traitement aux mains des Quraysh. Alors les Quraysh démontrèrent leur hostilité envers tous ceux qui suivaient l'apôtre. Tous les clans qui avaient des musulmans parmi eux furent attaqués. On les emprisonnait, les battait, les privait de nourriture et de boissons et on les exposait à la chaleur intense de la Mecque, de façon à les détourner de leur religion. Certains cédèrent sous la pression, mais d'autres résistèrent, protégés par Allah. Mohammed lui-même n'échappa pas aux dangers et aux insultes. On lui jeta de la boue et même des abats d'animaux alors qu'il priait. Lorsque la persécution s'intensifia, 83 hommes musulmans et leurs familles migrèrent dans la région chrétienne d'Abyssinie pour y trouver refuge et protection. Le doute. À un certain moment, Mohammed semble renoncer à son monothéisme sous la pression des Quraysh. Ils lui firent une proposition. Ils étaient prêts à louer Allah s'il acceptait de louer leur Dieu. Il refusa, comme l'indique le verset C 109:6, « À vous votre religion et à moi la mienne ». Toutefois, Mohammed hésita puisque Al-Tabari note que C 53 lui avait également été révélé et ce verset est maintenant connu comme étant les versets sataniques en référence à des déesses mécoises, Allat d'Al-Uzza et Manat. Ce sont des femmes très élevées dont l'intercession en vérité doit être demandée. Après avoir entendu ce verset, les païens Quraysh étaient enchantés et ils ont commencé à suivre les musulmans. Toutefois, l'ange Jibril réprimanda Mohammed. Le verset fut abrogé en mentionnant qu'il venait de Satan. Mohammed fit connaître que le verset avait été retiré, ce qui lui attira les foudres des Quraysh qui devinrent encore plus hostiles envers Mohammed et ses disciples. Par la suite, Mohammed reçut le verset qui confirmait que tous les prophètes, le précédent, avaient eux aussi été détournés du droit chemin. Encore une fois, nous voyons Mohammed tourner une situation potentiellement honteuse en marque de distinction. Face à la moquerie et aux accusations, où on l'accusait d'être un faux prophète, ce qui l'atteint profondément, Mohammed se mit à recevoir des versets de la part d'Allah qui le validaient et qui appuyaient le fait qu'il était un être remarquable, qu'il n'était pas dans l'erreur, mais qu'il était plutôt un homme des plus intègres. Plusieurs traditions démontrent que Mohammed en vint à croire en la supériorité de sa race, de sa tribu, de son clan et de sa parenté. En réponse aux attaques d'illégitimité, il répliqua que tous ses ancêtres étaient nés de couples mariés, qu'aucun n'était né en dehors du cadre d'un mariage, et ce, depuis Adam, qu'il était le meilleur homme provenant du meilleur clan, les Hachémites, issu de la meilleure nation, les Arabes. Il dit « Je suis meilleur que tous en esprit et meilleur que tous en parenté. Je suis le plus grand des élus. Quiconque aime les Arabes, c'est en m'aimant moi qu'on les aime. » D'autres expériences de rejet. Les choses n'allaient pas pour le mieux pour Mohammed lorsqu'il perdit sa femme Khadija et son oncle Abu Talib au cours de la même année. Ce fut deux immenses pertes. Sans leur support et leur protection, les Quraysh allaient avoir le champ libre pour hausser le ton des hostilités contre lui. La société arabe était basée autour d'alliances et de relations. La façon d'être protégé était de se lier à quelqu'un de plus puissant que soi. Avec le danger croissant pour lui-même et ses disciples, et après avoir été rejeté par sa propre tribu, Mohammed chercha protection ailleurs. On se moquait de lui et il était continuellement ridiculisé et même poursuivi par une foule qui le chassa hors de Taïf. Néanmoins, Mohammed réussit à trouver une communauté qui était prête à le protéger. C'était des Arabes de Médine, une cité où de nombreux Juifs vivaient. Fuite de la Mecque vers de nouveaux alliés. Durant une foire annuelle à la Mecque, un groupe de visiteurs provenant de Médine firent serment de loyauté, d'obéissance à Mohammed, acceptant de vivre selon son message de monothéisme. Dans ce premier serment, ils ne se commirent pas à se battre. Toutefois, à la foire de l'année suivante, un grand nombre de Médinois portèrent allégeance et ajoutèrent un serment de protection, ce que Mohammed recherchait. Les Médinois qui furent connus sous le nom de Ansar, ou aidants, jurèrent qu'ils feraient la guerre en complète obéissance à l'apôtre. Suite à ce serment, la décision fut prise par les musulmans de migrer à Médine pour pouvoir former une entité politique dans un contexte de paix. Mohammed fut le dernier à quitter la Mecque en s'enfuyant au milieu de la nuit par une fenêtre à l'arrière de sa résidence. Lorsqu'ils arrivèrent à Médine, Mohammed proclama son message. Pratiquement tous les Médinois arabes se convertirent à l'islam au cours de la première année. Mohammed était alors âgé de 52 ans et des poussières. Durant les années à la Mecque, Mohammed avait été rejeté par sa propre famille et sa tribu. À peu d'exceptions près, seuls les pauvres humiliés croyaient en lui. Plus généralement, on se moquait de lui, on le menaçait, on l'humiliait et il était la cible préférée de tous. Mohammed vivait avec beaucoup d'insécurité, craignant le rejet de son appel prophétique. Il semble qu'il alla même jusqu'à accepter les dieux des Quraysh dans une certaine mesure. Toutefois, à la fin, en dépit d'une opposition virulente, Mohammed agit avec détermination et persévérance et gagna la confiance d'un groupe de disciples dédiés. Le rejet et la révélation mécquoise. Témoin pacifique. Plusieurs écrivains rapportent que la décennie que Mohammed passa à témoigner à la Mecque fut pacifique. Dans un sens, c'est vrai. Toutefois, bien qu'aucune violence ne soit prescrite dans les chapitres mécquois du Coran, il en fut certainement question et parmi les premières révélations, on y retrouve des dénonciations envers les voisins de Mohammed, abordées dans un langage terrifiant, annonçant des tourments terribles dans l'au-delà pour ceux qui le rejettent. Une des fonctions des versets des jugements mécquois dans le Coran est de justifier Mohammed face au rejet des Arabes Quraysh. Par exemple, Mohammed dit que ceux qui se rient des musulmans recevront leur rétribution. Les croyants, buvant leur vin dans la luxure assis dans leur divan somptueux au paradis, vont rire en regardant les non-croyants brûler dans les feux de l'enfer. Ces propos ainsi que le message de jugement véhiculé ont sans aucun doute participé à enflammer le conflit à la Mecque. Les païens n'aimaient pas ce qu'ils entendaient. Prévenus à la Mecque, non seulement Mohammed prêcha-t-il le jugement éternel, mais Ibn Ishaq rapporte que Mohammed démontra ses intentions envers les païens très tôt durant la période mécoise. « Allez-vous m'écouter, vous, ô Quraysh ? Par celui qui tient ma vie entre ses mains, je vous massacrerai. » Plus tard, juste avant la fuite de Mohammed à Médine, un groupe de Quraysh le confronta personnellement avec l'accusation qu'il menaçait de mort ceux qui le rejetaient. Mohammed amène des allégations que, si vous ne le suivez pas, on vous massacrera et lorsque vous serez ramené des morts, ce sera pour brûler éternellement en enfer. Mohammed confessa que ses dires étaient corrects. C'est vrai que je dis cela. À force de subir le rejet et la persécution, la communauté musulmane réfugiée à Médine se convainquit, confirmée par un mandat divin, de faire la guerre à ses ennemis. Gagnant et perdant. Le concept islamique du succès et les propos concernant les gagnants et les perdants émergèrent comme thème des sourates dans le Coran à la moitié de la 13e année à la Mecque. C'est à cette époque, avec de multiples références au conflit entre Moïse et les Égyptiens idolâtres, que le Coran décrit la finalité des choses en termes de gagnants et de perdants. C'est cependant vers la fin de la période mécoise que Mohammed applique sa terminologie du succès aux luttes avec ses opposants. Dans la 10e sourate, au cours de la période juste avant sa migration à Médine, Mohammed déclare que ceux qui rejettent les révélations d'Allah seront perdants. La vision du monde, fitna, de Mohammed. Le mot arabe fitna, épreuve, persécution, tentation, est d'une importance cruciale pour comprendre la métamorphose de Mohammed en leader militaire. Le mot est dérivé de « fatana », se détourner, tenter, séduire ou mettre à l'épreuve. La racine du mot évoque la purification d'un métal par le feu. La fitna peut inclure la tentation ou l'épreuve avec l'utilisation positive ou négative de ces termes, pouvant aller jusqu'à justifier la torture. On peut donc l'appliquer pour justifier une tromperie aussi bien que de pratiquer un démembrement sur un individu. La fitna devient un concept clé dans la vision théologique de la communauté musulmane naissante envers les non-croyants. Ce que Mohammed reprochait aux Quraysh était d'utiliser la fitna, incluant les insultes, la calomnie, la torture, l'exclusion sociale, les pressions économiques et l'incitation au rejet, de façon à forcer les individus à quitter l'islam ou à diminuer son influence. Les premiers versets qui ont été révélés concernant la lutte mettent en évidence que le seul but de se battre pour tuer est d'éliminer la fitna. Combattez dans la voie de Allah ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Allah n'aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion fitna est pire que le meurtre. Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion, fitna, et que le culte soit rendu uniquement à Allah. S'il cesse le combat, ce qui revient à se convertir à l'islam, ne poursuivez les hostilités que contre les injustes récalcitrants. Le concept que la fitna envers les musulmans pire que le meurtre est très significatif. La même citation sera utilisée de nouveau à la suite d'une attaque contre une caravane mécoise pendant le mois sacré, une période où les traditions tribales arabes interdisaient les raids. Cela implique donc que le massacre d'infidèles entraîne moins de conséquences qu'un musulman qui se détourne de sa foi. L'autre phrase déterminante dans ce passage du Coran, chapitre 2, est « Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion, fitna ». Cette affirmation sera mentionnée une deuxième fois après la bataille de Badr, au cours de la 2e année à la Médine. Ces phrases faisant référence à la fitna, chacune révélée à deux reprises, établissent que le jihad est justifié pour éliminer les obstacles qui pourraient empêcher les gens de joindre l'islam ou pour empêcher les musulmans d'abandonner leur foi. Toutefois, bien qu'il soit grave de tuer autrui, il est encore pire de critiquer ou faire obstruction à l'islam. La plupart des érudits musulmans incluent dans le concept de la fitna l'existence même de l'incroyance, permettant ainsi d'interpréter les énoncés du Coran comme « l'incroyance est pire que le meurtre ». Interprété dans ce sens, où « la fitna est pire que le meurtre », se battre pour tuer tous les infidèles qui rejettent le message de Mohammed devient un mandat universel et ce, qu'on ait affaire avec les musulmans ou non. Pour les non-croyants, le simple fait de commettre l'incroyance, pour reprendre un terme utilisé par le grand commentateur Ibn Khatir, était pire que d'être tué. Cette compréhension des choses procure les justificatifs nécessaires pour faire la guerre afin d'éliminer l'incroyance et faire de l'islam la religion dominante au-dessus de toutes les autres. Les implications pour les non-musulmans. Les racines du rejet des non-croyants dans la loi islamique se retrouvent dans la vision du monde de Mohammed au niveau émotif et dans sa propre réponse au rejet. Initialement, l'hostilité de Mohammed cible les gens de sa tribu, les Arabes païens. Nous observons que le traitement réservé aux païens arabes par Mohammed est en relation directe avec le mauvais traitement réservé aux musulmans et qu'il a permis de justifier la doctrine par laquelle la simple existence de l'incroyance constitue une fitna. La même tendance est observée lorsque Mohammed traite avec les gens du livre. Puisqu'ils rejettent l'islam, ils deviennent à jamais reconnus coupables et méritent d'être subjugués et traités de façon inférieure. D'autres réactions au rejet. Dans l'histoire de la carrière prophétique de Mohammed, on observe une panoplie de réponses au rejet. Très tôt, Mohammed montre des signes flagrants de rejet de soi, incluant le suicide, la peur d'être possédé et le désespoir. Il y a parallèlement à ces signes des réactions d'auto-validation comme pour annihiler la peur du rejet. Cette réaction inclut les affirmations qu'Allah punira ses ennemis en les envoyant en enfer. Des assertions pour couvrir des faits qui pourraient être très embarrassants, comme la déclaration que tous les prophètes ont été, à un certain point, détournés de leur appel par Satan, et les versets envoyés directement d'Allah qui indiquent que ceux qui suivent les déclarations de Mohammed seront des gagnants dans cette vie et dans l'au-delà. Finalement, la réponse agressive domina. Le résultat est la doctrine du jihad qui veut éliminer la fitna en se battant contre et en conquérant les non-musulmans. Rétribution. Alors que la puissance militaire de Mohammed grandit à la Médine et que les victoires s'accumulent, le traitement de ses ennemis défaits en dit long sur ses réelles motivations pour mener son combat. Un incident documenté est le traitement que Mohammed réserva à Uqba, qui avait auparavant jeté des excréments et des abats de dromadaires sur Mohammed. Lorsque Uqba fut capturé suite à la bataille de Badr et qu'il plaida pour sauver sa vie en disant « Mais qui va prendre soin de mes enfants, Mohammed ?» Mohammed lui répondit « L'enfer, avant de le faire tuer. » Suite à la bataille de Badr, les corps des Mécois assassinés furent jetés dans une fosse où Mohammed se rendit au milieu de la nuit pour se moquer des morts. Un tel incident démontre que l'objectif de Mohammed était d'obtenir rétribution et vengeance contre ceux qu'il avait rejetés. Même à la mort, il insista pour avoir le dernier mot. La conquête de la Mecque. Ceux qui rejetaient Mohammed étaient toujours en tête de sa liste d'assassinats. Lorsqu'il conquit la Mecque, Mohammed découragea ses hommes de commettre des massacres. Cependant, il y avait une liste de mises à mort de personnes qui devaient être éliminées à tout prix. Trois d'entre elles étaient des apostats, deux autres, incluant une femme, des personnes qui avaient publiquement insulté Mohammed à la Mecque, et encore deux autres, des filles esclaves, qui avaient l'habitude de chanter des chansons satiriques à son égard. La liste des condamnés de la Mecque reflète encore une fois combien Mohammed avait une aversion extrême envers le rejet. les apostats incarnaient la menace de la fitna puisqu'ils étaient des témoins vivants de la possibilité de quitter l'islam, alors que ceux qui s'étaient moqués ou qui ridiculisaient Mohammed avaient le pouvoir de miner la foi de ceux qui les entendaient. Le traité de Hudaybiyah. Avant la conquête de la Mecque, Mohammed avait eu une vision dans laquelle il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Il lui était impossible, au moment où il reçut cette vision, d'effectuer ce pèlerinage puisque les musulmans étaient en guerre avec les Mécois. Suite à cette vision, Mohammed négocia un traité qui allait lui permettre de faire ce pèlerinage. Le traité était valide pour une période de 10 ans et l'une des conditions était que Mohammed retournerait aux Mécois quiconque le joindrait sans la permission de leur gardien légal. Cela incluait les femmes et les esclaves. De plus, le traité permettait aux gens des deux côtés de faire des alliances entre eux. Pour sa part, Mohammed ne respecta pas le traité. Lorsque des personnes venaient à lui pour récupérer leurs femmes et leurs esclaves, il refusait de retourner les fugitifs citant l'autorité d'Allah. Le premier cas répertorié est une femme nommée Kulthum, que ses frères vinrent réclamer. Mohammed refusa de la rendre puisque, tel que mentionné par Ibn Ishaq, Allah refusa. C-60 instruit les musulmans à ne pas devenir amis avec les croyants. Il est mentionné que si un musulman aime secrètement un Mécois, il est alors perdu. Dans tous les cas, le seul intérêt d'un non-croyant est d'amener un musulman à délaisser sa foi. C-60 en entier est conflictuel avec l'esprit du traité de Hudaybiyah, dans lequel il est écrit « Il n'y aura pas d'hostilité dans nos relations, ni de restrictions secrètes ou de choses initiées par des mauvaises intentions. » Toutefois, lorsque plus tard les musulmans attaquèrent et conquirent la Mecque, il fut noté que les actions précédentes étaient justifiées puisque ce sont les Quraysh qui violèrent le traité. Par la suite, Allah déclara qu'aucun autre traité ne pourrait être signé avec les idolâtres, qu'Allah et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Tuez les polythéistes partout où vous les trouverez. Cette séquence d'événements illustre ce qui devint une perspective islamique bien ancrée où les non-musulmans, polythéistes, étaient par nature des briseurs de pactes, incapables de respecter une alliance. Parallèlement, au même moment, Mohammed reçoit instruction d'Allah de briser son pacte avec les infidèles. Lorsque Mohammed brise un pacte suite à une demande de l'autorité divine, ce n'est pas vu comme injuste. Un tel incident révèle comment Mohammed, en consignant les non-croyants dans la catégorie de ceux qui vont attirer les musulmans à abandonner leur foi, ils vont commettre une fitna, rend impossible le développement d'une relation normale entre les deux groupes aussi longtemps que ces derniers refusent d'accepter l'islam. Le combat contre les juifs. Les relations de Mohammed avec les juifs de Médine et de Khaybar établissent les fondations pour le développement subséquent du système de pacte de la Dima pour les gens du livre. La vision de Mohammed envers les Juifs. Lors de la période mécoise, Mohammed était intéressé à développer une relation avec les Juifs afin de confirmer qu'il était un prophète d'une longue lignée comprenant plusieurs prophètes juifs. Dans les sourates mécoises et parmi les révélations des premiers mois à la Médine, il y a peu de références aux Juifs. Lorsque le Coran fait référence aux Juifs à la Mecque, c'est pour mentionner que même si certains vont croire et d'autres non, que le message de Mohammed va les bénir également. Mohammed avait des relations avec des chrétiens au cours de ses années à la Mecque, et les contacts avec ces derniers étaient encourageants. C'est le cousin chrétien de Khadija, Waraka, qui a identifié Mohammed comme prophète. Les chrétiens abyssiniens qu'il avait rencontrés à la Mecque se sont convertis. Peut-être souhaitait-il voir les Juifs répondre positivement à son message en discernant en lui la preuve évidente qu'il était un envoyé de Allah. En effet, Mohammed proclame que son enseignement était le même que celui de la religion juive, incluant la prière et le paiement de la zakat. Il alla même jusqu'à inciter les croyants à prier en direction de la Syrie, interprétée comme étant vers Jérusalem, imitant la coutume juive. Lors de son arrivée à la Médine, la tradition islamique fait mention d'une alliance avec les Juifs qui formèrent un parti politique. Cette alliance reconnaissait la religion juive. Les Juifs ont leur religion et les musulmans la leur, et il est commandé que les Juifs demeurent loyaux envers les musulmans. Opposition à la Médine. Mohammed commença à présenter son message aux résidents juifs de la Médine, pour lequel il reçut une forte résistance. La tradition islamique attribue cette résistance à l'envie. Certaines révélations de Mohammed incluent des références bibliques et sans aucun doute, les rabbins contestèrent ces énoncés, soulignant les contradictions avec les interprétations faites par Mohammed. Le prophète de l'islam trouve les questions des rabbins gênantes et, par moments, de grands pans de Coran qui lui furent révélés lui donnent les réponses. Encore et encore, lorsque Mohammed était mis au défi par une question, il retournait l'incident en opportunité pour s'auto-valider, comme le témoignent les versets du Coran. L'une des stratégies de base de Mohammed est d'affirmer que les Juifs trompent les gens en citant des passages qui leur convient et en cachant d'autres passages qui ne servent pas à leur cause. Une autre réponse d'Allah est d'affirmer que les Juifs ont délibérément falsifié leurs écritures. Le dialogue des rabbins avec Mohammed a été interprété par la tradition islamique non comme un dialogue honnête, procurant des réponses raisonnables aux proclamations de Mohammed, mais comme une fitna, une tentative de détruire l'islam et la foi musulmane. Une théologie hostile envers ceux qui la rejettent. Les conversations frustrantes de Mohammed avec les Juifs ne firent que nourrir son hostilité envers eux. Bien que des versets antérieurs identifiaient certains Juifs comme croyants, le Coran plus actuel les déclarait tous faisant partie de la race à maudire, affirmant que très peu étaient de vrais croyants. Le Coran mentionne que, dans le passé, certains Juifs furent transformés en singes et en cochons en réprimande à leurs péchés. Allah les appelle « assassins des prophètes ». Allah a renoncé à son alliance avec eux et a durci leur cœur. C'est pourquoi les musulmans peuvent être assurés de leurs mauvaises intentions, mis à part quelques-uns. Puisqu'ils ont brisé leur alliance, les Juifs sont déclarés être de la classe des perdants qui ont abandonné le vrai chemin. Avant d'aller à Médine, les révélations de Mohammed laissaient entendre que le judaïsme était valide. Toutefois, ces versets furent abrogés à Médine. Mohammed vint à croire qu'il avait été envoyé pour corriger les erreurs des Juifs. Il conclut que sa venue abrogeait le judaïsme, que l'islam qu'il amenait était la religion finale et que le Coran constituait la dernière révélation. Tous ceux qui rejetteraient ce message sont des perdants. Il n'est donc plus acceptable pour les Juifs ou les chrétiens de suivre leur vieille religion. Ils doivent reconnaître Mohammed et devenir aussi musulmans. Dans les versets du Coran, Mohammed attaque directement et vertement la théologie du judaïsme. Cela démontre combien Mohammed fut profondément offensé par le rejet de son message par les Juifs. Il s'agit ici d'une autre auto-validation de Mohammed, telle que celle qu'il avait exprimée envers les idolâtres mécois. Puis Mohammed alla encore plus loin en implantant des méthodes agressives en réponse à ce rejet. Le rejet tourne à la violence. À Médine, Mohammed entama une campagne pour intimider, puis ultimement éliminer les Juifs. Fort de sa victoire contre les idolâtres de Badr, il rendit visite à la tribu juive des Kaïnuka et les menaça d'une vengeance de Allah. Puis il trouva un prétexte pour assiéger les Juifs Kaïnuka et les expulser de Médine. Mohammed commença alors à cibler des Juifs pour les faire assassiner et il donna l'ordre à ses disciples de « tuer tout Juif qui vous tombe sous la main ». Aux Juifs, il annonça « Aslim Taslam, acceptez l'islam et vous serez saufs ». Mohammed modifia profondément sa façon d'interpréter les choses. Les non-musulmans avaient droit à la propriété et à la vie seulement s'ils supportaient et honoraient l'islam et les musulmans. Toute autre chose était la fitna et un prétexte suffisant pour leur faire la guerre. Mais Mohammed n'en avait pas terminé avec les Juifs. Les Banu Nadir, allaient être les prochains à retenir son attention. La tribu Nadir, tout entière, fut accusée d'avoir brisé leur alliance. Les membres de cette tribu furent donc attaqués et, à la suite d'un long siège, chassés hors de Médine. Leurs biens furent confisqués par les musulmans comme butin de guerre. Suite à cet événement, Mohammed assiégea la dernière des tribus juives de Médine, les Quraïza, en clamant un ordre de l'ange Gabriel. Lorsque les Juifs se rendirent inconditionnellement, les hommes furent décapités sur la place du marché à Médine. De 600 à 900 selon les sources, et les femmes et les enfants furent distribués comme butin, comme esclaves, parmi les musulmans. Mohammed n'en avait cependant pas terminé avec les Juifs d'Arabie. Après avoir nettoyé Médine de leur présence, il attaqua Khaybar. La campagne de Khaybar débuta avec le scénario des deux choix. Ou vous vous convertissez, ou vous êtes tués. Toutefois, lorsque les musulmans défirent les Juifs de Khaybar, un troisième choix fut négocié, une capitulation conditionnelle. C'est ainsi que les Juifs de Khaybar devinrent les premiers d'Imi. C'est ainsi que se conclut notre discussion à propos de la façon dont Mohammed traita les Juifs. Il est important de noter que le Coran traite les Juifs et les chrétiens également, représentant une seule catégorie, les gens du livre. Le traitement des Juifs dans le Coran et par Mohammed durant sa vie en tant que gens du livre est devenu le modèle à suivre pour le traitement des chrétiens à travers les siècles. Nous sommes des victimes. L'un des thèmes les plus importants de la pensée de Mohammed réside dans le fait que les musulmans sont des victimes. Pour soutenir la position théologique que la conquête est une libération, il est important de trouver des fondements pour que les infidèles deviennent des ennemis qui méritent d'être attaqués. Qui plus est, plus la punition est extrême, plus il est nécessaire d'insister sur la culpabilité de l'ennemi. Puisque, par décret divin, les souffrances musulmanes étaient pires que le massacre, il devint essentiel pour les musulmans de percevoir que leur état de victime était plus déplorable que quoi que ce soit qu'ils puissent infliger à un ennemi. Que les musulmans soient les plus grandes victimes que la terre ait portées, la culture du martyr, devint une nécessité doctrinale, un compas de la foi pour les musulmans. C'est cette racine théologique, implantée dans le Coran et les sourates de Mohammed, qui explique pourquoi, encore et encore, les musulmans ont toujours insisté pour dire que leurs souffrances sont plus grandes que celles de ceux qu'ils attaquent. Cette mentalité a été commentée par le professeur Ahmad bin Muhammad, un professeur algérien de religion politique, dans un débat avec le docteur Wafa Sultan sur le réseau de télévision Al Jazeera. Exaspéré par les arguments du docteur Sultan, il se mit à crier « Nous sommes les victimes ! Il y a des millions d'innocents parmi nous, les musulmans, alors que l'innocence parmi vous se compte seulement à la douzaine, la centaine, et au plus dans les milliers. » Cette mentalité de victime est perpétuée jusqu'à ce jour dans plusieurs communautés musulmanes et elle réduit la capacité des personnes de prendre leurs responsabilités pour leurs propres actions. Mohammed, celui qui rejette. C'est ici que se conclut notre survol de la vie de Mohammed et de sa relation avec le rejet, celle reçue et celle imposée sur les autres, ainsi que son acharnement à dominer ses ennemis. Tel que nous l'avons vu, le prophète de l'islam a expérimenté du rejet à plusieurs niveaux. À cause de son histoire familiale, de sa propre communauté à la Mecque et de la part des Juifs à Médine, sa réponse au rejet passe de l'auto-rejet à l'auto-validation et finalement à l'agression. Mohammed l'orphelin est devenu faiseur d'orphelins. Celui qui doutait de lui-même, qui a fait des tentatives de suicide à cause de sa peur d'être tourmenté par des démons, est devenu l'ultime dominateur, imposant son credo par la force des armes afin d'anéantir et remplacer toutes les autres croyances. Dans la lecture émotive du monde de Mohammed, la défaite et la dégradation des non-croyants guérit les sentiments défaitistes de ses disciples et rassasit leur désir de vengeance et leur rage. Cette guérison, appelée la « paix musulmane », obtenue par la guerre, est décrite dans le Coran. Au début, Mohammed et ses disciples connaissent une réelle persécution aux mains des Mécois polythéistes. Mais lorsqu'ils se retrouvent en position de pouvoir à Médine, Mohammed perçoit l'incroyance dans son statut de prophète comme de la persécution et il autorise la violence afin de traiter avec les non-croyants et les moqueurs, polythéistes, juifs ou chrétiens, de façon à les faire taire ou à les intimider jusqu'à la soumission. Mohammed a institué un programme militaire et idéologique qui éliminait systématiquement toute manifestation de rejet envers lui ou sa communauté religieuse. De plus, il clama que le succès de son programme était une preuve qui validait sans aucun doute son statut de prophète. Le Coran établit des marqueurs tout au long de la carrière prophétique de Mohammed. Dans ce sens, il se révèle comme un journal intensément personnel appartenant à Mohammed, le registre de l'hostilité et la rage croissante qu'il développe face au rejet. Les pratiques imposées sur les non-musulmans, telles le silence, la culpabilité et la soumission-gratitude, sont ancrées dans la réponse personnelle de Mohammed face au rejet et sa volonté d'éliminer ceux qui refusent de confesser « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah » et j'atteste que Mohammed est son messager.